Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, un petit rappel. Donc cet après-midi, on donne la parole à des étudiantes et des étudiants de l'UTC pour présenter les travaux qu'ils et elles ont menés dans le cadre du cours WE01. C'est un cours qui aborde les technologies du web à la fois sous les angles théoriques, comment est-ce que ça fonctionne le web et Internet, pratique, comment est-ce qu'on crée un site web, comment est-ce qu'on écrit sur le web, comment est-ce qu'on l'héberge, et puis aussi culturel, à la fois au niveau de l'histoire du web, de la surveillance sur le web, des questions d'éthique, les fameux algorithmes, etc., etc. Plein de sujets passionnants sur lesquels les étudiantes et les étudiants ont travaillé ce semestre en groupe. Ils ont mis en ligne leur travail sur un site web, à la fois des articles scientifiques, des fiches de lecture, des interviews, et pour finaliser le semestre, ils présentent une synthèse de leur travail à Graphite. Alors, pour cette deuxième session de l'après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Timo Allais, Changyuan Han, Nassim Benghezan et Antonin Cross. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous allez nous parler cet après-midi d'une alternative. Alors je vous laisserai présenter un peu tout ça, mais on va dire au web qu'on connaît aujourd'hui, plus frugal, plus sobre. Et pour commencer, Timo, tu vas nous parler de la complexité aujourd'hui des navigateurs web, si je ne me trompe pas.
Oui, en effet. Merci Quentin. Donc, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de radio du mercredi après-midi. Donc, je vais parler des navigateurs web. Vous devez déjà tous savoir ce qu'est un navigateur web. Ce logiciel qui permet à un ordinateur client de se connecter à un ordinateur serveur, récupérer la ressource demandée grâce à l'URL et l'afficher sur notre écran. De nos jours, ces navigateurs web sont performants et présentent surtout de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, les sites visitables sur le web vont être très variés, par leur affichage par exemple. Les feuilles CSS vous permettent de modifier la couleur ou l'emplacement des éléments, afin de former un site plutôt beau et pratique pour les utilisateurs. Les navigateurs et sites web peuvent également récolter des informations sur leurs utilisateurs, comme avec les fameux cookies par exemple, leur permettant de proposer de manière intelligente ce qui pourrait nous intéresser, nous épargnant d'avoir des informations inutiles qui nous gêneraient plus qu'autre chose. Cependant, ces performances relèvent forcément une certaine complexité dans la construction de ces navigateurs web. Dans un premier temps, le développement d'un navigateur web demande de nombreuses ressources, notamment humaines, car il doit être capable de prendre en compte et pouvoir supporter les différentes fonctionnalités que les créateurs de sites web peuvent intégrer à leur site, comme les feuilles CSS permettant la stylisation du site évoquée précédemment. Bien que ce ne soit pas impossible, de petites entreprises auront alors des difficultés à développer à elles seules un navigateur web. Et d'un autre côté, nous avons l'organisation W3C. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le sigle pour le World Wide Web Consortium, qui est une organisation fondée en 1994, ayant pour but la standardisation du web. De ce fait, le W3C sort régulièrement des évolutions du web, que les navigateurs vont alors devoir prendre en compte. Cela oblige les entreprises à régulièrement suivre les évolutions et à adapter leurs navigateurs en fonction de ces évolutions, rendant la tâche de gestion d'un navigateur encore plus compliquée à une petite entreprise. Seules les grosses entreprises le peuvent alors, créant ainsi une forme de centralisation autour de ces grandes entreprises. L'extrait audio suivant, tiré d'une vidéo d'une conférence sur le web qui a eu lieu le 26 mars 2019 à l'Université de Nantes, va permettre d'appuyer ces idées.
Il y a eu ce qu'on appelle la guerre des navigateurs, c'est-à-dire que chaque éditeur a essayé de mettre la main sur le langage HTML et en disant, voilà, pour afficher une page web dans mon navigateur, vous devez utiliser mes balises à moi. Et forcément, dans un autre navigateur, s'il ne connaît pas ces balises-là, il n'arrivera pas afficher cette page-là. Donc Microsoft avait été le plus virulent à partir de la sortie de Internet Explorer. Il avait mis la main véritablement sur le langage HTML. Le consortium a réussi à équilibrer un petit peu les usages. Les négociations ont abouti à un standard et il y a des pratiques de standardisation partagées entre les développeurs, les webmasters. Et puis, petit à petit, ces navigateurs ont évolué, ils se sont perfectionnés. On a rajouté une navigation par onglet. C'est Firefox qui a fait ça, qui lui a permis à un moment de doubler Internet Explorer. On a rajouté ensuite des plugins ou des add-ons, des extensions de navigateurs qui permettent d'apporter de nouvelles fonctionnalités dans notre usage quotidien des navigateurs.
Et c'est donc en réponse à cette forme de centralisation que des universitaires ont lancé un autre protocole de communication web, le protocole Gopher. L'objectif était de concurrencer le protocole HTTP en proposant un protocole moins lourd, à la fois au développement et à l'utilisation. Il aurait ainsi pu permettre une décentralisation des navigateurs web en donnant une alternative simplifiée aux utilisateurs. Gopher n'a malheureusement pas duré longtemps, mais son principe a été repris récemment par le projet Gemini. Par exemple, avec le protocole HTTP, certaines informations se retrouvent à même l'URL, lui donnant une allure longue et difficile à retenir. Cette fonctionnalité se voit enlevée avec Gemini. De plus, la notion de beauté d'un site web est totalement relative aux individus. Ce qu'un tel peut trouver beau, un autre peut le trouver assez laid ou pas à son goût. Chaque site web ne plaît donc pas de manière homogène à chaque utilisateur. Gemini enlève donc également cette fonctionnalité, permettant à l'utilisateur de faire comme il le souhaite et non plus co-créateur du site web. Ces tentatives d'amener une alternative au protocole lourd peuvent nous amener à nous demander, peut-on se passer du protocole de l'Internet moderne, le HTTP ?
Merci beaucoup Timo pour ton intervention. Alors j'imagine que vous expliquerez peut-être un peu plus en détail ce qu'est Gemini et sinon on posera des questions. Moi je me demandais, tu as évoqué le W3C, donc ce consortium qui crée de nouvelles normes pour les navigateurs. Est-ce que tu sais qui décide de ces évolutions du web ? Et aussi, est-ce que tous les gros navigateurs aujourd'hui sont obligés un peu de suivre les évolutions ou ils font un peu comme ils veulent ? Il y en a certaines qui n'intègrent pas.
Alors, je ne sais pas exactement qui décide au sein du W3C, mais je sais que c'est un ensemble d'organisations qui se mettent en commun pour décider les règles de standardisation du web. Donc dans différents pays, je ne sais pas exactement lesquels. Et au niveau des sites web, donc le W3C donne ses règles de standardisation, mais au final, il me semble avoir vu que peu de sites web, si ce n'est aucun, respectaient toutes les règles de standardisation vraiment. Et souvent, ils vont un peu faire comme ils veulent pour ce qui leur arrange et garder les règles de standardisation qui ne les embêtent pas trop au final. Donc il n'y a pas vraiment un respect de cette standardisation appliquée.
Oui, je pense que ta réponse est juste. Et puis, on peut aussi se dire, bon, bah voilà, les très, très gros navigateurs majoritaires, au final, c'est ayant un monopole, ils peuvent aussi se dire, bon, soit on participe à l'élaboration des normes, soit on met que celles qui nous arrangent. Et du coup, bon, il n'y aura pas vraiment énormément de conséquences. Tu disais qu'avec Gemini, un utilisateur peut choisir comment un site s'affiche. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux détailler un petit peu pour faire le parallèle avec nous, les sites web qu'on connaît ?
Alors, les sites web qu'on connaît actuels avec le HTTP, du coup, on a souvent une stylisation avec des feuilles CSS qui va donner une certaine forme au site, ajouter de la couleur en fond, par exemple, ou changer la taille des polices. Sur Gemini, c'est une version plus simplifiée, donc il n'y a pas tout cela. Le site est de base assez épuré, il n'y a que la forme texte du HTML Et donc, ça, c'est pour l'idée que du coup, le style n'est pas forcé, entre guillemets, à chaque utilisateur. Et à côté, alors je me suis pas vraiment trop penché sur ce sujet, mais je crois qu'il y a des manières de changer le CSS d'un site web autre qu'en les développant soi-même, avec, je pense notamment à Google Chrome. Alors je n'ai plus le nom exact malheureusement, mais il y a une sorte de bouton d'analyse qui permet de voir les lignes du code et de les modifier à même le navigateur.
Merci beaucoup Timo pour ces réponses. Je vous propose de passer à la seconde partie de cette présentation. Shangguan, tu vas nous parler de Gopher dont Timo a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Gopher qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas moi je ne connaissais pas avant que vous travailliez sur ce sujet.
Bonjour, comme vous venez de l'entendre, le web moderne est très complexe, mais existe-t-il une solution à ce problème? Faisons une bonne histoire. Le web que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire la technologie web, est née en 1991, l'année même où une autre technologie, Gopher, a été introduite. Aujourd'hui, la plupart de vous ne savent pas ce qu'est Gopher, mais dans les années 90, il a contribué à inaugurer une ère d'accès convivial aux informations en ligne. Le nom Gopher, contrairement à de nombreux autres noms liés à l'informatique, décrit réellement ce qu'il peut faire. Dans le langage courant, un Gopher est une personne qui va chercher des choses. À l'époque, alors que l'université était à la recherche d'un système de transmission des informations et que l'Internet regorgeait d'informations non organisées, l'équipe l'Internet Gopher a été mise sur pied afin de résoudre ces problèmes. Au contraire des pages web d'aujourd'hui, Gopher n'a pas d'interface complexe, pas de lien vers n'importe où. C'est comme une bibliothèque avec une hiérarchie claire des ressources de l'Internet. Il se compose d'un serveur, d'un client et d'un protocole. Il est efficace en termes de bande passante, compatible avec les protocoles existants, déployable sur toutes les plateformes, simple à installer et facile à utiliser. Il prend en charge la recherche en texte intégral, une technologie révolutionnaire à l'époque. Gopher a été l'une des premières tentatives pour mettre la puissance de l'Internet à la portée des gens ordinaires.
Alors, on va écouter un extrait audio. Est-ce que tu sais quelle est la source de l'extrait audio? Qu'est-ce qu'on va écouter?
Ça, c'est une vidéo vient de YouTube, c'est en anglais, malheureusement, qui introduit brièvement comment utiliser Gopher et une petite ajout sur l'histoire de Gopher.
Ok, c'est parti.
So, it's a competing protocol to HTTP. 1991 is when both of these protocols were created. And back then, they were really competitive. I mean, you would think of Gopher and HTTP as sort of like the rivalry that we have between Intel and AMD. You had some browsers which only worked with Gopher. You had some which worked with both Gopher and HTTP, and then you had some that only worked with HTTP, which of course ultimately won the competition for the web. That's why all websites that you go to, they start with HTTP, right? Or HTTPS, right? Same thing, just with encryption. They're all using that protocol. But Gopher is still alive and kicking. There's hundreds of thousands, if not millions, of Gopher sites out there on the web today, or Gopher holes, as they are sometimes called.
Malgré sa gloire, en 1995, Gopher est un échec. Avec moins de serveurs, moins d'utilisateurs et une maintenance moins fréquente. Les gens se sont progressivement tournés vers le web. Mais pourquoi? Certaines recherches ont analysé la disparition de Gopher. Tout d'abord, compte tenu de l'environnement d'Internet de l'époque, les développeurs ne pensaient pas qu'il serait efficace ou rapide d'intégrer les éléments audio, vidéo ou graphiques sur une page. Gopher ne pouvait pas donc produire des pages multimédia comme le web. Deuxièmement, Gopher utilise une structure hiérarchique pour accéder aux données sur l'Internet. Cette structure, semblable à une bibliothèque, doit être organisée par un administrateur, sinon elle sera difficile à utiliser. En fait, les menus hiérarchiques des gophers sont souvent mal conçus, eux aussi, en raison des capacités variables des administrateurs. Certains affirment également que cette structure hiérarchique ne convient pas au mode de pensée humain. Les gens pensent de manière décentralisée plutôt que structurée. Alors le web devrait être un maillage distribué avec différents liens vers différents endroits. Sur le plan économique, Gopher a en fait démarré son plan marketing. Le logiciel a été distribué gratuitement, ce qui a entraîné un manque progressif de fonds de maintenance au fur et à mesure de la croissance de Gopher. Et lorsque l'équipe d'exploitation de Gopher est prête à charger, la lenteur de sa commercialisation et de la réponse aux problèmes des utilisateurs a conduit des gens à perdre patience dans l'attente.
Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, du coup, moi, je me demandais, est-ce que ça existe encore Gopher, même comme une niche ou avec peu de gens qui l'utilisent, mais est-ce que certaines personnes utilisent encore Gopher? Il y a des sites qui tournent toujours sur Gopher?
Oui, c'est ça. Il y a moins de sites qui utilisent Gopher, mais il existe encore. Les gens qui utilisent Gopher se sont contents pour ça, parce que c'est leur intérêt.
Et par exemple, est-ce qu'on peut trouver Wikipédia sur Gopher? Parce que la structure hiérarchique, on se dit peut-être que ça pourrait permettre d'organiser... je ne sais pas si tu sais s'ils ont un site Gopher.
Il y a un site qui s'appelle... j'oublie le nom exact, mais c'est presque une Gopherpedia qui fait vraiment la même chose que Wikipédia.
Ok. Et est-ce que tu saurais nous dire à l'époque qui utilisait principalement Gopher? Est-ce que c'était plutôt des entreprises, des universités, des particuliers ou un peu tout le monde?
Au début, ce sont des universités qui utilisent Gopher pour distribuer des informations des universités. Mais après, plus de monde trouvait que c'est facile à utiliser. Et du coup, après, c'est presque tout le monde qui utilise ça.
Ok, et ben merci encore pour ton intervention. Je vous propose de passer à la troisième partie. Cette fois-ci, Nassim, tu vas nous parler plus précisément de Gemini. Comment est-ce qu'on peut l'installer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et voilà, je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'installation d'une capsule Gemini est à la fois facile et bon marché. On peut accéder à une capsule Gemini de n'importe où. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des Raspberry Pi, ou Raspberry Pi, selon la prononciation. Donc, ce sont des petits ordinateurs de poche qui sont facilement transportables et économes en énergie. Pour faire fonctionner un serveur Gemini sur un Raspberry, vous devez d'abord installer et configurer les logiciels appropriés, tels qu'un serveur web et une application de serveur Gemini. Ensuite, il faut créer et configurer le serveur, y compris la configuration de tout contenu ou fichier que vous souhaitez rendre disponible via le serveur Gemini. Une fois le serveur configuré et opérationnel, vous pouvez y accéder à l'aide d'une application client Gemini, comme un navigateur web, ou vous pouvez aussi également utiliser sous Linux, donc en ligne de commande. La petite taille et le faible coût, donc même s'il y a une pénurie, c'est vrai en ce moment, et la polyvalence donc, du Raspberry en font un choix populaire pour l'exécution d'un serveur Gemini. Étant donné que les ressources utilisées par Gemini sont minuscules, donc vraiment très 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 faibles, ils sont parfaitement adaptés pour auto-héberger votre propre site web pour vos activités professionnelles ou personnelles avec Gemini. Donc Gemini ne fonctionne pas comme HTTP, même si il supporte nativement cette technologie. Et donc, mais vous ne pouvez pas quand même l'utiliser en tant que navigateur web normal pour y accéder. Il existe cependant un certain nombre de navigateurs qui supportent Gemini comme Crystal. Tout comme HTTP, il suffit de taper dans la barre de recherche Gemini, deux points et un double slash. Similairement, avec Gopher, comme on a vu précédemment, on peut mettre Gopher, deux points et un double slash. Nous allons maintenant vous passer un petit audio sur Gopher qui est tiré déjà donc, d'une vidéo YouTube qui est disponible. Nous allons vous en mettre le lien sur le site, qui s'appelle Remote Class le Low-Tech Web par Antoine Cailly, qui est consultant et formateur.
Puis encore un exemple, alors là on remonte encore plus dans le temps. C'est au début du web, on va dire, il y avait un protocole concurrent de HTTP qui s'appelait Gopher, qui était initialement dispo dans les navigateurs en fait, et puis petit à petit le projet est un peu mort, on va dire. Il est toujours utilisable aujourd'hui, hein. Il y a toujours un petit noyau actif sur son développement. Mais dans les navigateurs classiques, on ne peut plus l'utiliser tel quel. L'intérêt de ce protocole-là, en fait, c'était qu'il était volontairement très simple. On n'avait pas la notion d'hyperlien qui a fait le succès d'HTTP. On avait un protocole purement orienté texte et organisé comme une arborescence de fichiers, comme quelque chose avec lequel on a l'habitude de travailler. Et là, on a un exemple de Hacker News, version Gopher. Donc, c'était juste une hiérarchie de fichiers avec quelques fichiers un peu spéciaux qui permettaient, par exemple, de faire une recherche. Mais l'intérêt, c'est que c'était super simple à implémenter, à maintenir. Et au niveau...
Donc, bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, nous allons maintenant vous présenter les critiques qui apparaissent auprès de la communauté du net et des scientifiques. Le protocole Gemini suscite en effet des réactions nombreuses. Des utilisateurs de Gemini sur Reddit ainsi que des ingénieurs comme Daniel Stenberg le considèrent comme un mélange de Gopher et de HTTP. Gopher est pour rappel une solution ancienne et que l'on peut considérer comme obsolète, qui a été remplacée par HTTP, qui est le protocole le plus couramment utilisé aujourd'hui. HTTP est utilisé dans tous les navigateurs que l'on emploie, qu'on utilise quotidiennement, comme Chrome, Firefox, Edge ou encore Safari. Parmi les critiques possibles du protocole, on peut citer son manque de prise en charge de certaines fonctionnalités par rapport à d'autres, telles que HTTPS, ou son utilisation et son adoption, parfois limitée, à un nombre restreint de personnes. Le modèle économique de Gemini se place comme étant différent des modèles classiques traditionnels. Il dépend de la matière dont il est utilisé et mis en œuvre par les individus ou les entreprises. Je vous renvoie à l'acquisition de Twitter par le milliardaire Elon Musk qui a bien fait parler dans l'actualité récente. Et dans notre conception des modèles dits gratuits et ses limites quant à la liberté d'expression. Par exemple, une personne exploitant un serveur Gemini pourrait potentiellement générer des revenus en facturant l'accès à son contenu ou en affichant des publicités sur son serveur. Mais ce qui pourrait être contradictoire avec le modèle de Gemini. Donc, cependant, on peut dire que ce modèle donc, commercial, inhérent au protocole il n'y a pas vraiment de modèle inhérent au protocole Gemini. Le coût d'hébergement du site Gemini est faible. L'utilisateur peut se tourner sur un système par don, ne visant pas à dégager quelconque profit. De plus, les détracteurs peuvent critiquer le protocole Gemini parce qu'il met l'accent sur la simplicité et l'efficacité, mettant en valeur l'argument qu'il sacrifie d'importantes fonctionnalités ou la sécurité dans la poursuite de ses objectifs. Certains utilisateurs de la première heure considèrent qu'il est même inutile tous les cas d'utilisation, sauf les plus simples, je cite. Et donc qu'il ne servirait à rien, au final. Cela serait même un retour en arrière par rapport aux avancées modernes du XXIe siècle. Cette technologie est limitée et utilisée par des utilisateurs de niche. On peut avoir l'image typique du hacker derrière son ordinateur, sur un écran vert, flashy, à la recherche de failles. Donc ces personnes qui sont peut-être, et sûrement pas, vous et moi, si vous venez uniquement d'en entendre parler. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc il y a des tutos pas à pas très bien expliqués, et il faut juste avoir un peu de bonne volonté. Donc tous ces arguments que je viens de vous donner sont recevables uniquement si on oublie le fait que la planète souffre. Je suppose que vous avez tous entendu parler de la COP27 et qui est une politique sans avancée majeure. Gemini n'est pas uniquement un outil, c'est une expérience utilisateur unique qui ne nuit pas à l'environnement. Les serveurs sont des ressources très gourmandes en énergie. Avec Gemini, on utilise le strict minimum pour répondre aux besoins utiles. On oublie Google Maps ou Street Map pour se localiser quand on est perdu en plein Paris. Avec Gemini, ce n'est plus possible. Il faut alors trouver des solutions alternatives pour contourner ces limites qui sont volontairement austères. D'un point de vue culturel, ces protocoles faits maison ont la même philosophie, la même idée que les navigateurs web que vous utilisez pour chercher vos recettes de cuisine. Sauf qu'ici, vous gardez le contrôle en faisant des concessions. En conclusion, donc l'utilité et l'adéquation du protocole Gemini dépendront des besoins et des objectifs spécifiques de l'utilisateur ou de votre projet. Donc si vous voulez contourner de façon légale le monopole des GAFAM, des grandes entreprises de la tech sur vos données, n'hésitez pas à parler à vos proches de ce genre d'initiative. Et c'est souvent en collectif que l'on fait avancer les choses.
Merci beaucoup Nassim pour ton intervention. Alors du coup, je me posais quelques questions. Tu disais à un moment que Gemini avait des fonctionnalités qui étaient limitées par rapport à HTTPS. Est-ce que tu peux développer ce que tu entendais par là?
Oui. Alors en fait, il faut savoir que comme c'est un protocole différent, il n'a pas été conçu de la même façon, il n'a pas les mêmes objectifs. D'ailleurs, dans un site web classique, HTTP, il y a des feuilles de style CSS, du JavaScript pour réagir avec les actions de l'utilisateur. C'est-à-dire quand on va cliquer dans un formulaire, dans un bouton, ça va engendrer une action. Et avec Gemini, on veut éviter d'influencer l'utilisateur avec des publicités ou des pop-up envahissants. Pour éviter d'avoir à recourir à toutes sortes de bloqueurs de publicité, que ce soit Adblock, etc., et des bloqueurs de pop-up, pour avoir une utilisation, classique, conviviale et intéressante sur le web.
D'accord, merci beaucoup. Ok, ouais, parce que moi je pensais à HTTPS, la partie S sécurisée, où du coup on peut préciser que Gemini a ses fonctionnalités, par contre de chiffrement et de protection de ce qui passe sur le réseau d'un bout à l'autre. Tu disais aussi qu'on peut accéder à Gemini donc avec un navigateur, mais qui n'est pas un navigateur donc pour aller sur le web, un navigateur un peu spécial. On pourrait considérer que c'est contraignant de devoir avoir plusieurs logiciels. Est-ce que il existe un moyen de consulter une page Gemini avec un navigateur web classique? Est-ce que selon toi, ce serait un moyen de rendre la technologie peut-être plus utilisée, ou est-ce qu'au contraire, ça inciterait tout le monde à rester sur ses habitudes du web classique?
Voilà, donc à ma connaissance, il n'existe pas pour le moment de navigateur classique qui supporte Gemini, et c'est vrai que ça pourrait être une excellente idée d'élargir l'utilisation et d'intégrer Gemini, mais je ne pense pas que ce soit dans la politique de ces navigateurs, puisque Google Chrome, donc c'est comme son nom l'indique, Google, et qui ont envie de garder la main sur les technologies dites propriétaires, et ne souhaitent pas divulguer de code source et ne souhaitent pas perdre leur monopole. Mais on pourrait imaginer que sur certains navigateurs minimalistes, comme Mine, donc certaines initiatives qui se développent sur différentes plateformes, GitLab, GitHub, et qui sont ouvertes à n'importe qui, à tous les publics, on pourrait imaginer qu'ils intègrent ce protocole Gemini.
Merci beaucoup. Et je me demandais enfin, est-ce que pendant tes recherches sur Gemini, tu as trouvé des trucs, du contenu sympa sur Gemini que tu as pu aller observer? Est-ce que tu aurais des sites ou des blogs ou que sais-je à nous recommander?
Pas pour le moment, mais c'est vrai que cette initiative de Wikipédia, de refaire Wikipédia, ça pourrait être pas mal. Après, on pourrait imaginer des plateformes de type Twitter sur Gemini. Donc, on est déjà Mastodon, mais c'est pas encore porté sur Gemini à ma connaissance. Mais on pourrait imaginer que cela existe. Gemini, donc est facile d'utilisation et la création de capsules, on appelle ça des capsules Gemini, et à la portée de tous en suivant pas à pas les tutos.
Merci beaucoup. Un clin d'œil à Romain Delage de Picassoff qui a développé un pont entre Gemini et Mastodon, il me semble. Je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, ça existe quelque part sur Framagit. Merci encore, Nassim, pour ton intervention. On va passer à la dernière intervention de cette émission. Antonin, si je ne m'abuse, tu vas essayer de faire un parallèle entre le mouvement low-tech et Gemini, de voir les rapports ou ce qui peut les différencier. C'est à toi.
Oui, en fait, on va se poser la question ensemble de si le projet Gemini ne serait-il pas, finalement, en adoptant les codes, un symbole du mouvement low-tech. Né dans les années 70, celui-ci a gagné en popularité dans les années 2010 et il prône l'utilisation de technologies plus douces, dites low-tech, en opposition à la high-tech. Au cœur de ce mouvement, on retrouve des valeurs telles que la simplicité, la soutenabilité, l'ouverture et la liberté. Vu par certains comme un outil au service d'une production plus soutenable, pour d'autres, la low-tech est devenue un mode de vie à part entière. Ainsi, depuis des années, nous pouvons voir fleurir sur le net de nombreux articles et vidéos nous apprenant à vivre en mode low-tech. On peut donc apprendre en quelques clics comment fabriquer un pédalier multifonction, construire une éolienne maison, produire son propre biogaz ou même encore comment faire cuire ses pâtes.
On va faire des pâtes version low-tech.
Déjà en mettant la bonne quantité d'eau. Et ensuite, tu peux mettre un couvercle. Il y a un truc qui est pas mal si tu as une plaque électrique, c'est tu lui mets une petite jupe isolante.
C'est quoi? C'est de la feutrine? C'est de la
ouais,
laine?
Ouais, c'est une feutrine qui doit être pas inflammable.
Oui, c'est mieux.
Ouais. Ça isole de l'extérieur. Tu divises par 3 la quantité d'énergie que tu utilises.
Donc ça, c'est hyper simple à faire dès demain, quoi.
Ben, en fait, tu peux le faire dès maintenant, si tu veux.
Et si on veut mettre la barre un peu plus haute?
Et ben après, tu as la marmite norvégienne. Tu fais bouillir ton plat. Par exemple, tu pourrais faire ça dans ce tiroir-là. Si tu installes un matériau isolant, ça peut être du liège ou quelque chose comme ça, qui isole en fait de l'extérieur. Et donc, tu mets ton plat dedans avec un couvercle dans l'isolant, donc il n'y aura pas de déperdition thermique. Et tu fermes ton tiroir. Et donc, pendant encore des heures, il va rester chaud, ça va continuer à cuire et ça va peut-être même être encore meilleur.
Donc c'est une vidéo extraite de la chaîne YouTube de la région Bretagne où on entend du coup interviewer Corentin de Châtel-Perron qui est un des cofondateurs du Low-Tech Lab. En fait, on voit que pour une action banale et aussi basique que la cuisson de pâtes conventionnelles, la version low-tech finalement demande l'installation de plusieurs isolants ou même plusieurs heures de cuisson avec la technique dite de la marmite norvégienne. Ne sommes-nous pas là face au principal défaut du mouvement low-tech? De par sa nature même, ce mode de vie demande beaucoup d'investissements matériels et temporels. Il est donc très dur, voire impossible, de convaincre le plus grand nombre d'adopter ces nouvelles habitudes, car elles représenteraient un trop vaste changement et demanderaient une adaptation trop difficile. Mais ne peut-on pas ici trouver une ressemblance flagrante entre les low-tech et le projet Gemini? En clair, celui-ci souffrirait-il des mêmes symptômes? L'idée du projet Gemini, quand il débute en 2019, est de gommer les défauts de la navigation web actuelle. Le projet prône le retour à l'essentiel et à la simplicité en affichant principalement des informations textuelles. Le tout luttant contre les publicités pop-up, le suivi, les vidéos en lecture automatique et tout ce qui rendrait la navigation trop lourde. Le protocole Gemini met aussi en avant le contrôle de l'utilisateur sur son expérience et la liberté de celui-ci. Mais cette alternative au protocole plus mainstream semble être un trop grand retour en arrière pour de trop nombreux utilisateurs. Le décalage entre l'usage moderne de la navigation web et les solutions apportées par Gemini ne lui permettent pas de convaincre le grand nombre. Son impact reste donc très limité, ne faisant presque que soulever un problème sans vraiment y apporter de solution. Alors, que peut-on vraiment dire du mode de vie low-tech et du projet Gemini ? Pour l'un comme pour l'autre, nous voyons que ces mouvements peinent à toucher et à convaincre le grand public. En effet, il existe un trop grand décalage entre le mode de vie occidental contemporain et le mode de vie low-tech pour qu'une majorité de gens opère une transition entre les deux. C'est la même chose pour le protocole Gemini. Dans une société d'images et d'hyper-information, il est difficile d'imaginer que le grand nombre se mette à utiliser un protocole si simple et limité en fonctionnalité. Peut-on pour autant dire que ce projet, le projet Gemini, est inutile ? Je ne le pense pas. En effet, Gemini ne doit pas et n'a pas comme vocation de remplacer les navigateurs et protocoles contemporains. Il propose simplement une autre vision, mettant en exergue les défauts de la centralisation actuelle du web. Bien qu'il apporte des solutions, aussi bien que de nouveaux problèmes, son utilité est dans le regard nouveau qu'il permet de poser sur une industrie qui a perdu l'esprit de liberté et d'ouverture qu'elle pouvait porter à ses débuts. Mais alors, ces initiatives, comme le projet Gemini ou le mouvement low-tech dans sa globalité, doivent-elles être considérées comme des alternatives à notre mode de vie ? Nous avons vu qu'actuellement, il est difficile d'opérer une transition entre nos modes de vie et les alternatives soutenables qui existent déjà. Mais ces alternatives vont-elles le rester ? Avec l'arrivée de plus en plus visible et palpable de la crise environnementale, mais aussi des crises énergétiques et économiques, la high-tech, qui s'appuie sur une gigantesque consommation d'énergie et de matériaux, serait finalement vouée à la disparition. Ainsi, nous pouvons voir le mouvement low-tech comme un laboratoire, en incapacité d'imposer son alternative aujourd'hui, mais préparant des technologies pour notre futur, quand le choix entre high-tech et low-tech n'existera plus.
Merci beaucoup Antonin pour ton intervention. Quelques questions comme pour les autres. Une question de Stéphane qui demande en quoi peut-on s'inspirer de Gemini pour proposer des évolutions du web classique tel qu'on le connaît aujourd'hui à ton sens ?
Moi je pense qu'il y a une grande inspiration à prendre sur la mise en avant d'une simplicité. Par contre, là où moi je trouve que ça va trop loin, c'est que cette simplicité est tellement exagérée que beaucoup ne franchiront pas le pas, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont certes pas un besoin initialement, mais auxquelles les gens sont beaucoup trop habitués. Tout à l'heure, on a évoqué les street maps ou street view, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de la vie quotidienne qui ne seraient pas capables de faire ce pas, d'utiliser un protocole où finalement tout ça deviendrait impossible. Et du coup, je pense qu'il y a des sites accessibles sur avec des protocoles HTTP classiques, comme par exemple le site du Low-Tech Lab, qui lui se revendique économe en énergie, tout en sauvegardant une présentation classique pour les gens qui ne seraient pas sensibilisés ou tout simplement pas prêts à sauter le pas. Le Low-Tech Lab, par exemple, ils disent qu'ils utilisent 12 fois moins d'énergie pour afficher une page web classique qu'un autre site, par exemple.
Merci beaucoup. Du coup, tu disais qu'il y a une marge trop grande entre ce que propose aujourd'hui Gemini pour être accepté et le reste. À ton avis, c'est quoi les fonctionnalités essentielles qui manquent à Gemini pour que ce soit accepté par le plus grand monde si tu devais avoir un juste milieu pour toi ?
En fait, ça va dépendre, selon moi, beaucoup des personnes, parce que je conviens que ce qui est proposé par les protocoles classiques n'est pas essentiel à la navigation. Mais par contre, ça va permettre de mettre en valeur un navigateur où il y a beaucoup d'images, beaucoup de fonctionnalités qui, au final, ne répondent pas à de véritables besoins, mais répondent à des envies d'utilisateurs. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les protocoles plus classiques attirent beaucoup de gens qui ont des connaissances profonde sur la consommation d'énergie ou la soutenabilité des technologies, mais par contre a du mal à convaincre les gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces causes, puisqu'en fait, vu qu'on est habitué à avoir beaucoup d'images, toujours être sollicité visuellement, c'est vrai que pour quelqu'un de lambda qui n'a aucune connaissance, un HTTP sera toujours plus agréable à regarder parce qu'il va retrouver les codes de notre société avec beaucoup d'images, du mouvement, là où sur un protocole Gemini ou tout autre protocole très simplifié, il ne va pas du tout le retrouver. Donc ça ne répond pas vraiment à des besoins, mais plus à des habitudes presque de consommation et des envies du consommateur. Et du coup, je pense qu'une étape intermédiaire serait la bienvenue pour amener plus de gens vers cette soutenabilité, finalement.
Ok, bon, je pense que ce qu'on peut interroger dans ce que tu soulèves, c'est le lien entre habitude et envie. Parce que finalement, envie, on pourrait aussi dire qu'elles sont vachement créées par les opérateurs de gros sites web ou quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Un tout petit truc que moi, je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que les low-tech, c'est très difficile à définir. Vous en avez parlé un petit peu. c'est plus en complément qu'en contradiction, mais c'est vrai que c'est plus que la marmite norvégienne. Il s'agit de réinterroger non seulement les valeurs, les finalités, mais aussi les pratiques. C'est pas juste l'idée de peu consommer, c'est l'idée d'avoir des technologies qui sont conviviales, qu'on peut s'approprier sans nécessité d'industrie massive, faite pour durer, etc. Mais ça dit rien de l'acceptabilité sociale des low-tech. C'est vrai qu'il y a des réticences qu'on peut entendre chez beaucoup de citoyens et de citoyennes, et c'est pour ça que je voulais vous poser une question à tous les quatre. Vous êtes vraiment libre d'y répondre comme vous le souhaitez. Nassim, tu as mentionné la COP27 et l'urgence écologique. Antonin, tu disais donc que tu étais assez sceptique sur l'adoption des low-tech, en particulier de Gemini, par la population. On voit donc bien la tension qu'il y a entre la nécessité d'agir, en tout cas on peut penser qu'il y a nécessité d'agir, et l'inertie qui est entretenue notamment par notre modèle économique de croissance. Alors si l'un de vous avait les pleins pouvoirs, pareil, on se place dans un super état autoritaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça serait quoi votre décision, par exemple, sur Gemini? Est-ce que vous l'imposeriez, vous l'imposeriez pas, vous choisiriez autre chose? Est-ce que voilà, vous avez des billes un petit peu pour faire un truc un peu plus sympa pour le web du futur?
Donc pour ma part, je pense déjà, par exemple, à l'éducation nationale, où on utilise principalement des outils propriétaires, donc une suite Office qu'on offre peut-être à tous les étudiants. Donc là, déjà, on pourrait promouvoir une alternative qui serait Gemini. C'est déjà d'une part. Et d'un autre côté, on pourrait promouvoir dans les médias, donc c'est une alternative qui est à la fois soutenable et qui est meilleur pour l'utilisateur, qui est Gemini, en mettant l'accent sur le fait que ça va moins endommager déjà notre santé avec moins d'images, donc peut-être moins de lumière bleue. On pourrait imaginer un support physique différent, peut-être un ordinateur avec différents types d'écrans. J'ai vu en ce moment qu'ils développent des écrans e-ink. Donc pour réduire, on va dire, une interaction forcée vers la publicité, pour avoir nos habitudes et pour capter l'utilisateur. Donc là, si on met en place un matériel adapté, open source, facilement modifiable, personnalisable, on pourrait le monter nous-mêmes, ainsi que proposer un software, donc un logiciel, donc un navigateur Gemini qui prend aussi en charge HTTP, parce qu'il ne faut pas tout arrêter. Et il faut pouvoir, si on a besoin, ouvrir Google Maps, ouvrir Street View. Donc si on propose toutes ces solutions, on peut arriver à ça.
Non, moi je veux réagir sur le fait que tu as parlé de l'éducation nationale en priorité. Moi j'avais déjà réfléchi un peu à cette question de mon côté, et la réflexion que je m'étais faite, c'est que peut-être une solution qui est bien sûr inenvisageable aujourd'hui, mais ce serait plutôt quelque chose qui s'apparenterait à un service public de l'informatique et du web, parce que pour moi c'est ça la principale différence et le principal point commun entre tous les acteurs du web aujourd'hui, c'est qu'ils servent des intérêts privés, c'est leur job entre guillemets d'entreprise, là où un service public doit servir l'intérêt général. Et pour moi il est d'intérêt général de faire un web qui soit plus facilement accessible pour tous, qui soit plus soutenable, plus écologique, qui porte aussi des valeurs. Et pour ça, pour moi, dans un mode idéal, si j'avais les pleins pouvoirs, pour moi c'est une mission de service public, ce qui est très très loin d'être le cas aujourd'hui, puisque sur internet l'espace public n'existe quasiment pas et tout est remplacé par un espace privé, et on le voit de plus en plus avec notamment Elon Musk qui a racheté Twitter, où on voit que finalement il s'attribue des pleins pouvoirs sur une place publique, enfin qu'on considérait comme publique mais qui ne l'a jamais été.
Merci beaucoup pour ces réponses stimulantes. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un mot? C'est tout bon? Ok, je vous remercie, j'espère que ça donnera du grain à moudre aussi à nos auditeurs et à nos auditrices. Bravo à tous les quatre pour votre préparation et votre présentation. Vous pourrez réécouter, vous auditeurs ou auditrices, les interventions des étudiants et étudiantes de WE1 en podcast sur graphite.net, puis sur l'instance PeerTube à peri.tube. Si vous êtes curieux ou curieuse de ce qu'on apprend en WE1, vous pouvez venir faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Je vais maintenant laisser ma place à Audrey qui, d'ici quelques minutes, commencera la deuxième session de l'après-midi avec deux groupes qui vont venir présenter leur travail. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci encore à tous les quatre pour votre travail. Merci à Graphite pour l'accueil de cette émission et bonne fin de journée à toutes et à tous.
Au revoir à tous, merci.
Merci à tous, au revoir.
Bonne fin de journée, au revoir.